Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, rebonsoir et bienvenue sur Transistor pour le journal radiophonique amplifié qui commence avec un petit peu d'avance, une fois n'est pas coutume, parce que c'est quand même fou, les joies du direct. Et c'est donc parti pour ce 42e, quel beau nombre, 42e journal radiophonique amplifié, nous sommes jeudi 6 décembre 2018. Et toute l'équipe est donc là autour de moi dans ce studio, déjà surchauffée par 2 heures de direct, pour bien sûr eh bien, aller récolter l'actualité, la retransmettre pour vous, mixer, égaliser, monter, et bien sûr amplifier. Alors au sommet de cette amplifiée, un billet d'ailleurs où nous partirons au Mexique, une revue de presse signée Mathilde avec l'aide et le retour triomphal de Marie qui nous revient, Marie qui nous offrira même un petit billet, un portrait politique qui sera consacré à notre grande idole régionale Laurent Wauquiez, et puis on continuera avec un édito économique avec Charlotte, et avant la culture une dernière petite actu, ça sera les pieds dans le tapis. À 20h35, on décale un petit peu un journal de la culture avec Léa, puis la chronique musicienne de Benoît et Maë, on parlera cinéma et on parlera jazz, vous verrez ça. Donc à 20h40 à 20h46, l'édito scientifique de Léo, et puis on terminera avec l'actu de la radio, une actu qui nous ramènera dans les années 60. Ce sera donc tout à l'heure à 20h52, mais tout de suite, bien sûr, c'est le journal et le rappel des titres. Et on commence tout d'abord avec le national et les gilets jaunes.
Bonsoir Rémi. La mobilisation des gilets jaunes qui s'est poursuivie samedi dernier et qui se mobilisera de nouveau ce week-end pour un acte 4 occupe toutes les langues cette semaine. De la part du gouvernement d'abord, qui a annoncé aujourd'hui devant l'hémicycle sa volonté de suspendre la mise en place des taxes sur les carburants afin d'apaiser les tensions. De la part des mouvements écologistes aussi, se réunissant samedi pour une nouvelle marche pour le climat, qui ont appelé les gilets jaunes à venir marcher en cortège de tête afin d'arriver peut-être à une convergence des luttes.
Et du côté des lycées, des luttes qui convergent justement aussi, Maë.
Exactement, les lycéens de nouveau mobilisés ce jeudi 6 décembre avec quelques 200 lycées et collèges perturbés, selon les dires du ministère de l'Éducation. Après l'importante journée de mobilisation qui a eu lieu lundi à la suite de l'appel lancé par le syndicat général des lycéens, CGL, et de la Fédération indépendante et démocratique lycéenne, FIDL, les plus jeunes sont partis pour continuer leur mobilisation. Ils réclament l'abandon des réformes du lycée, du bac, de la voie professionnelle et de la loi Heureux. La loi Horreur avec tout ce qu'elle implique, à commencer par la très controversée plateforme Parcoursup. Enseignants et parents s'émeuvent, eux, surtout des violences policières et de la forte répression à l'égard des jeunes manifestants. On compte déjà plusieurs blessés, dont certains très sérieux, ainsi que des dizaines d'interpellations.
Et puis justement, qu'est-ce qui suit les interpellations? Eh bien la justice qui est réformée, semble-t-il.
Eh oui, réforme de la justice. Cette nuit, l'Assemblée nationale a voté pour la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance. Cette très controversée mesure phare de la réforme de la justice a soulevé depuis des mois les critiques, les grèves et les manifestations de la part d'avocats et de magistrats, redoutant une refonte de la carte judiciaire où certains tribunaux, vidés de leur substance, finiraient par fermer. Les oppositions dénoncent notamment une disparition de la justice de proximité.
Et on termine avec les dernières nouvelles de la sortie du nucléaire, Arthur.
Oui, parce que Macron a présenté un plan climat qui pose un tout petit peu problème. Parce qu'au moment où la question du prix du carburant a lancé un des mouvements sociaux les plus massifs de ces dernières années, Macron a présenté un petit plan climat le 28 novembre. Après une annonce sur une grande concertation sur la transition écologique qui semble aussi sincère que son engagement pour l'environnement, Macron annonce la fermeture des rares centrales à charbon qui appartiennent à la France. Mais surtout, on est en droit d'attendre maintenant la fermeture de 4 à 6 réacteurs nucléaires d'ici 2028, voire 14 vers 2035, car on sait bien que rajouter une dizaine d'années éloigne l'échéance psychologiquement. En comparaison, Nicolas Hulot voulait en fermer au moins 8 jusqu'en 2025. Et on peut reconnaître à Emmanuel Macron de s'être surpassé, il a été quand même moins ambitieux que Nicolas Hulot.
Alors Après le national, l'international et l'international, pardon, l'international qui est marqué actuellement par le G20.
Et oui, le 1er décembre s'achevait le G20 de Buenos Aires, qui réunissait pour la première fois en Amérique latine les dirigeants des grandes puissances économiques mondiales. Si un compromis a été trouvé pour la signature d'une déclaration finale, qui se contente d'ailleurs de réaffirmer l'importance des engagements de la COP21 et souligne les apports du commerce multilatéral ainsi que la nécessité d'une réforme de l'OMC, la rencontre a été marquée par des négociations houleuses et l'évocation de sujets sensibles. Déjà, la présence du prince héritier d'Arabie Saoudite, MBS, au lendemain de l'affaire Khashoggi a fait couler beaucoup d'encre. Si Macron lui a fait part de son inquiétude, Trump a échangé des plaisanteries avec le prince héritier et Poutine ouvertement affiché sa bonne entente avec MBS, une bonne entente qui n'est sans doute pas sans lien avec les intérêts pétroliers communs des deux pays. Côté commerce, Trump et le président chinois ont conclu en marge du sommet une trêve dans leur guerre commerciale. Trump a renoncé à de nouvelles taxes sur les produits chinois et son homologue chinois a promis d'augmenter ses achats de produits américains et de contrôler la production d'un opioïde qui fait des ravages aux États-Unis. Une bonne entente qui s'oppose aux relations compliquées qu'entretient le président américain avec ses homologues russes et français et ne parvient à masquer ni la posture résolument protectionniste des États-Unis ni la réticence de leur président à s'engager en faveur des objectifs de la COP21. En attendant, le prochain rendez-vous est fixé à Osaka en juin 2019.
Et la situation est toujours aussi tendue entre l'Ukraine et la Russie, Léo.
Et oui, effectivement, en Europe de l'Est, la situation est toujours tendue malgré la réouverture du passage du détroit de Kerch. Pour rappel, tout a dégénéré la semaine dernière quand 3 navires militaires ukrainiens ont été pris d'assaut par le FSB, donc qui est rattaché aux gardes-côtes russes, faisant parmi les Ukrainiens donc 6 blessés et également 24 marins capturés. Une partie d'entre eux ont déjà été condamnés à 2 mois ferme pour violation de frontières par un tribunal militaire de Sévastopol. En réaction, l'Ukraine, et notamment par la voix du président Porochenko, a dénoncé l'agression russe et a également déclaré la loi martiale pour 1 mois dans les territoires proches du Donbass. La Russie, face à cela, a dénoncé une provocation de la part de l'Ukraine, tandis que Poutine lui a directement lui aussi dénoncé une manœuvre politique de Porochenko qui est actuellement en difficulté pour les prochaines élections. L'OTAN et l'Europe, de leur côté, ont soit condamné ou alors appelé à l'apaisement, et notamment Donald Trump a refusé de rencontrer Poutine au sommet du G20 actuellement en Argentine.
Des nouvelles de la COP24 également ?
Oui, la COP24 qui se tient en Pologne depuis le 2 décembre et jusqu'au 14 décembre dans une région spécialisée dans le charbon. Cette conférence des Nations Unies sur le climat est bien partie puisque dès le premier jour, la Banque mondiale a déclaré qu'un fonds de 200 milliards de dollars serait utilisé entre 2021 et 2025 pour faire respecter l'accord de Paris sur le climat. Ce sommet a aussi pour but de fixer une feuille de route pour assurer plus de solidarité climatique entre les nords et les suds. Pourtant, il n'y a pas de progrès notables qui sont notés durant les discussions entre les différents représentants, pas d'engagement fort de la part des différents pays. C'est dommage que ni notre Premier ministre ni notre champion de la Terre ne soient là-bas.
Et enfin, on revient sur la situation des populations musulmanes en Chine.
Oui, effectivement, une nouvelle toujours très perturbante de Chine, de l'ouest de la Chine, où selon Human Rights Watch, ce serait plus de 800 000 musulmans qui seraient maintenant incarcérés dans des camps dits de rééducation. Donc, ces musulmans qui sont principalement de l'ethnie ouïghour, au niveau du Turkestan oriental, aussi appelé Xinjiang. Ces personnes disparaissent sans donner de nouvelles, les autorités arrêtant un peu à tout bout de champ, et ce, sans distinction d'âge. Tout signe de religion est un motif justifiant un emprisonnement pour, je cite, « radicalisation », et cela va même jusqu'à simplement arrêter de consommer de l'alcool ou arrêter de fumer. Enfin, encore mieux, ne pas dénoncer ses proches sur ses comportements déviants est également motif suffisant pour l'incarcération.
Merci beaucoup à vous pour ce rappel des titres.